Il y a des moments où on vit comme ça des temps d'adoration dans la présence de Dieu, où quelque part on n'a plus grand chose à dire, hein. On vit simplement ce moment, on le vit simplement. Puis il y a d'autres moments dans la vie où c'est un peu plus agité, mais ça n'empêche pas que le Seigneur est là et qu'il agit dans nos vies. Ce matin, on va parler de certains moments qui ont été un peu plus agités dans la vie de certaines personnes. Ces dernières semaines, Florence nous a emmenés tout d'abord au bord du lac de Galilée, là où Jésus a appelé ses premiers disciples. Ensuite, sur la montagne, là où Jésus les a enseignés. Dimanche passé, elle nous a appris un nouveau mot. Qui se souvient du nouveau mot? Oligopistoi. Jean de peu de foi. Et notamment avec... C'était notamment en lien avec des événements qui se sont passés sur le lac. Et ce matin, on va s'arrêter autour de ce lac de Galilée. On va retrouver ces gens de peu de foi. On va vivre un moment avec eux. Et on va laisser le Seigneur nous parler au travers de ces personnes. Le lac de Galilée, juste pour qu'on ait tous un peu une idée, il mesure environ 20 km de long, 12 km de large. Donc, quand on est au milieu, on est bien au milieu, hein, on est bien perdu au milieu. Si vous voulez en faire le tour, c'est environ 53 km de marche. Donc voilà, c'est un grand lac. Et on va voyager autour de ce lac, sur ce lac, avec Marc et son évangile. Mais avec toi aussi. Et puis, plus particulièrement, quelques passages des 8 premiers chapitres de cet évangile. Parce que ces 8 premiers chapitres sont tellement riches en événements. Ça bouge dans tous les sens, il y a des foules, il y a plein de monde. Et presque à chacun de ces événements, il y a la foule qui veut voir Jésus, qui veut l'entendre. La foule qui lui amène des malades pour qu'il soit guéri. Et parfois, c'était la cohue. On le voit déjà dans Marc 3. Juste les versets 9 et 10. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, donc c'est Jésus, afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des malades se jetaient sur lui pour le toucher. On s'imagine un petit peu la cohue que ça emmenait, ces gens qui arrivaient et qui voulaient voir Jésus. J'ai pris la seconde 21 comme traduction, si jamais c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la seconde 21. Et il y a plusieurs autres récits où la foule se rassemble à nouveau autour de Jésus. Alors d'un côté, on voit cette foule qui voulait voir, qui voulait savoir, qui recevait un enseignement, qui vivait des guérisons, même parfois des résurrections. Et puis dans cette foule, il y avait aussi des personnes qui amenaient la contestation, hein. Il faut aussi le relever. Et puis de l'autre côté, Jésus et ses disciples, Jésus qui les prend à part, qui essaye parfois de les prendre à part, pour les enseigner, pour leur faire comprendre qui il est, pour les faire entrer dans leur appel. On va voir ce matin deux épisodes qui sont très connus, que les disciples ont vécu, deux épisodes dont Florence nous a brièvement parlé dimanche passé, et un troisième épisode qui concerne beaucoup plus la foule cette fois-ci, ce que la foule a vécu. Le premier épisode, il se trouve dans Marc 4, à partir du verset 35. Il commence par « ce jour-là ». Ce jour-là, il s'est passé quoi ce jour-là? Ce jour-là, Jésus, il est au bord du lac, et la foule s'agglutine autour de lui pour l'écouter. Du coup, il va s'installer dans une barque, un petit peu au large, pour que tout le monde l'entende. Et ça va être une de ces bonnes grosses journées, bien fatigantes, comme on peut tous en vivre une fois ou l'autre, ces journées où on attend à un moment donné plus qu'une chose, les disciples, ça devait être ça pour eux, simplement qu'on arrive au bout. Enfin, que ce soit le calme, le repos, on attend plus que ça. Et enfin, ce moment arrive, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Ah, enfin le calme, passez sur l'autre rive, plus que le bruit des rames sur l'eau, la douceur du soleil qui se couche après avoir été brûlé toute la journée par ses rayons. Passons sur l'autre rive. Je ne suis pas sûr que les disciples se soient vraiment beaucoup inquiétés de cette phrase. Pour eux, ça aurait très bien pu vouloir dire « C'est bon pour aujourd'hui, on a assez donné. On peut enfin se reposer. » Alors c'est vrai, c'est une histoire que, une des premières histoires que les enfants connaissent, où ils réalisent que Jésus est plus grand que la réalité, c'est une des premières histoires qui connaissent en principe. Marc 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alors on connaît cette histoire, il y a plusieurs évangélistes plusieurs évangiles qui en parlent. Mais vous avez remarqué comment ils interpellent Jésus dans l'évangile de Marc. « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Non mais franchement, on est en train de mourir, puis toi tu dors, puis ça te fait pas plus peur que ça. Quelque part, dans ce que Marc nous dit, je perçois aucune attente de leur part face à leur maître. Quelque part, on est tous en train de mourir, puis toi ça t'est un peu égal, quoi. Et quelque part, peut-être dans leur état d'esprit, ils n'avaient pas beaucoup d'attentes à avoir. Parce que c'était quand même eux les pros du lac, les pros de la pêche. C'est eux qui savaient comment diriger leur barque. Là, ils ont simplement été là où Jésus leur a dit d'aller, dans la direction que Jésus leur a donnée. Et ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient. Et là, ils réalisent tout à coup que cette fois-ci, ça suffira pas. Ils sont tous en train de mourir. C'est un constat, c'est la panique, c'est la réalité. Et pourtant, ils ont agi sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. Passons sur l'autre rive. Jésus avait un but. Mais dans la tourmente, le but, il l'avait totalement zappé, totalement oublié. Ils étaient fixés sur la réalité, sur le danger. Le regard était fixé sur ce danger. Peut-être qu'ils pouvaient même se dire, mais c'est de la faute de Jésus, c'est quand même lui qui a eu cette idée. C'est quand même lui, c'est lui le responsable, c'est lui qui nous a envoyés ici. Est-ce que vous avez déjà vécu de ces peurs, paniques, qui vous paralysent complètement, qui vous arrêtent? Moi, ça me rappelle, quand j'étais à l'école, les leçons de natation. Le bassin de natation où on allait, il avait un fond qu'on pouvait relever à la hauteur qu'on voulait. Et puis, il y avait un grand panneau lumineux. Quand on arrivait à la piscine, on voyait tout de suite, c'était marqué 120 allumés. C'est bon. La profondeur 1,20 m, je vais gérer, ça va aller. De temps en temps, c'était marqué 150. Là, il faut déjà rester sur le bord et être prêt à s'accrocher, parce que franchement, ça devient limite, hein. L'eau, elle est quand même près du visage. Puis parfois, c'était marqué 180. Et quand je voyais ce 180, pour moi, c'était la panique. Donc j'avais une heure où je devais m'agripper totalement avec les deux mains sur le bord de la piscine et attendre que ça passe. Je lâchais rien, j'attendais juste que ce soit la fin. Et j'étais tellement crispé que j'avais mal au bras, j'avais mal partout quand je sortais de l'eau. Résultat, aujourd'hui, quand j'essaye de nager dans un bassin, Marianne est la honte. Elle dit, mais tu dis que tout le monde arrête. Mais j'essaye de nager, mais voilà, j'y arrive pas. Paralysé par la peur. Et de la même manière, on peut parfois être paniqué parce qu'on voit devant nous, alors qu'on sait très bien ce que Jésus nous demande de faire, ce qu'il attend de nous. Et aujourd'hui, il se peut que plusieurs d'entre nous vivent dans cette peur. Une peur qui peut-être vous paralyse, qui vous empêche d'entrer dans ce que le Seigneur a placé sur votre cœur. Et il y a beaucoup de peurs qui peuvent nous freiner dans notre foi, dans notre marche avec Jésus, nous empêcher de poursuivre la route. J'en ai fait une petite liste, mais c'est juste une liste. Elle peut s'allonger encore. La peur du regard des autres. Ça peut m'empêcher de demander la prière quand j'en ai besoin. Ça peut m'empêcher de louer le Seigneur librement. Ça peut m'empêcher peut-être même de prier à voix haute devant les autres. La peur du regard des autres. La peur de manquer. La peur de manquer. Partager. Penser à l'autre. Là pour moi. J'ai besoin, moi. Et on passe à côté de ce que le Seigneur attend de nous parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à partager. C'est pas possible. La peur du ridicule, des moqueries. Dans le témoignage de ma foi, qu'est-ce qu'ils vont penser? Franchement, j'ai l'air de quoi dans ce que je vais dire? La peur de se tromper. Il y a bien longtemps, c'était au début qu'on était mariés, il y avait une personne dans l'église où on était qui avait à cœur la louange. Elle avait vraiment à cœur la louange. Et tout le temps, elle nous disait, mais j'aimerais tellement entrer dans la louange, mais je ne sais pas si c'est le plan de Dieu. Et j'ai pas envie de faire quelque chose qui est pas juste. Et tout le temps qu'on a connu cette personne, elle n'est jamais entrée dans la louange. Peur de se tromper. Elle n'a jamais pu entrer dans l'appel que tout le monde voyait sur elle, mais elle n'était pas sûre. Elle avait peur de se tromper. Des fois, on a peur de s'engager. On ne sait pas dans quelles seront les conséquences, où c'est que ça va nous emmener. La peur du rejet aussi, qui peut nous isoler complètement. Et la peur de souffrir, qui va nous pousser plutôt à fuir, à abandonner, quand ça sent un peu roussi, on abandonne. La peur, elle a ce pouvoir de nous aveugler, de nous paralyser, de nous arrêter. Et les disciples, dans leur barque, ils étaient totalement paralysés par la peur. Est-ce que ce matin, une peur te paralyse? Tu sais peut-être où Jésus veut t'emmener, dans quel engagement il t'appelle. Mais une peur vient te paralyser, vient t'empêcher d'aller plus loin. On va y revenir plus tard dans le message. Dans la suite de ce texte, il y a trois mots qui m'ont interpellé. Trois mots qui vont libérer les disciples et leur permettre d'arriver là où ils devaient aller, sur l'autre rive. Ça leur a permis de se concentrer à nouveau sur le but, sur l'autre rive. L'autre rive, c'est tout ce qu'ils savaient. Ils devaient aller là, mais ils ne savaient pas pourquoi. Ils allaient sur l'autre rive. L'autre rive, c'était la rencontre que Jésus allait avoir avec cet homme rempli de démons, d'une légion de démons, que Jésus allait libérer. Que Jésus allait totalement libérer. Et après ça, ils allaient repartir dans l'autre sens. Les disciples de Jésus ne le savaient pas, mais c'était pour ce rendez-vous-là qu'ils se sont battus pendant la nuit dans cette tempête. Et c'est pour ce rendez-vous-là que Jésus les a fait passer sur l'autre rive. Ces trois mots, silence. Tais-toi. des mots d'autorité de Jésus, des mots pleins d'autorité, des mots qui changent tout, qui amènent le calme, qui amènent la paix. Tout est à nouveau calme. Il n'en faut pas plus, 3 mots, ça suffit. Puis vient cette question de Jésus, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Les voilà nos oligopistoles. On va le garder ce mot-là. La peur d'un côté, la foi de l'autre. En fait, plus il y a de peur dans notre vie, moins il y a de place pour la foi. Plus on laisse la peur nous envahir, moins la foi peut prendre racine en nous. Et plus il y a de foi, moins il y a de place pour la peur. Il y a un autre passage sur lequel j'aimerais m'arrêter pour aller plus loin. On va le lire, c'est dans Marc 6, les versets 45 à 52. Il est tout autant connu. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. Un texte qu'on connaît bien aussi. Mais il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce passage. Là, Jésus, il est assez directif au début, hein. Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il les oblige à rejoindre l'autre rive, encore une fois. Mais cette fois, il les envoie seuls. Lui va pas avec. Jésus en profite, lui, pour aller prier sur la montagne. Il est dit, le soir venu, la barque était au milieu du lac, donc en gros 6 kilomètres de chaque côté, hein, à 6 kilomètres de la rive. Jésus voit que les disciples ont beaucoup de peine. Une barque à 6 kilomètres, au milieu d'un lac, est-ce que vous allez la voir? Et Jésus la voit. Et il voit également que les hommes qui sont dans cette barque sont en train de lutter, qu'ils ont de la peine, qu'ils ont des difficultés. Jésus le voit. Quand nous sommes dans ces difficultés, quand nous sommes paralysés, quand nous sommes arrêtés, ignorés de tous, Jésus le voit. Jésus voit. Et la suite de l'histoire se passe vers la fin de la nuit, quand Jésus les rejoint. Mais pourquoi, Jésus, est-ce que tu as attendu si longtemps? Le soir, tu vois qu'ils peinent, puis tu attends la fin de la nuit pour aller les aider, pour aller les rejoindre. Les disciples, je pense qu'ils ont vraiment eu le temps de se rappeler ce qu'ils ont vécu lors de la première tempête, quand Jésus était avec eux, qui dormait dans le bateau. Mais cette fois-ci, c'est différent, il n'est pas avec, il n'est pas là, on ne peut pas compter sur lui. Jésus veut leur faire comprendre quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre dans leur vie. Et vers la fin de la nuit, Jésus les rejoint à pied au milieu du lac. Une manière totalement improbable que Jésus utilise pour rejoindre ses disciples. Vous avez déjà remarqué combien de fois on essaie de se faire un film comment les choses doivent se passer. Et on est toujours surpris par le Seigneur, toujours. Et cette manière de Jésus d'aller vers ses disciples, je crois que c'est vraiment ça, c'est faites pas vos plans, faites-moi confiance. Et c'est tellement inimaginable, impensable, que c'est la panique à bord. Que tu vois Jésus arriver, ils ne le reconnaissent pas, ils sont pris de panique, encore une fois. Et franchement, qui d'entre nous n'aurait pas paniqué à leur place? Mais Jésus les rassure. C'est moi. C'est moi. C'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors on connaît l'épisode de Pierre, qui va à la rencontre de Jésus, Marc n'en parle pas. Jésus monte dans la barque, et à ce moment-là, le vent tombe et c'est le calme. Le même calme que lors de l'autre tempête. Sa seule présence ramène le calme. Il n'y a pas besoin qu'il menace la tempête, quoi que ce soit. Sa seule présence amène le calme. Dans les détresses qu'on peut vivre à un moment ou l'autre de notre vie, dans la détresse que tu vis peut-être aujourd'hui, Jésus voit. Jésus te voit, Jésus voit la situation que tu vis. Il veut prendre place à tes côtés. Il veut apporter son calme, apporter sa paix. Ramener le calme dans ta vie. Le troisième passage, auquel j'avais jamais vraiment fait attention jusqu'ici, il se passe très peu de temps avant l'épisode dont on vient de parler maintenant. C'est dans Marc 6 aussi, mais les versets 30 à 34. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Il y a un truc là qui m'a sauté à l'œil, que j'avais jamais remarqué. Cette foule qui va devancer Jésus. Jésus et ses disciples qui vont traverser le lac, la foule va le devancer en... Vous imaginez courir le long de ce lac pour arriver avant lui. De toutes les villes, on a couru à pied et on le devança à l'endroit où il se rendait. Je suis interpellé par l'attitude de cette foule, parce que là on est en période de finale du HCC, hein, n'est-ce pas? Et alors qu'ils jouent les finales, le soir des matchs, on joue à guichet fermé. Tout le monde court, tout le monde y va. Et chaque spectateur qui va au match, il espère voir quelque chose de grand, il espère voir un événement qui se passe, il espère voir la victoire. Il espère vivre ce moment d'osmose avec les joueurs, vivre le sensationnel. Mais le lendemain matin à la patinoire, quand c'est l'entraînement, il n'y a plus que le coach et puis les joueurs, c'est tout. Il n'y a plus personne. C'est un peu ce que je vois avec cette foule qui veut voir, qui veut vivre les choses. Dans l'épisode qu'on vient de lire, les disciples reviennent de mission, ils ont été envoyés deux par deux. Ils ont plein d'expériences avec eux qu'ils veulent raconter à Jésus. Et en même temps, il y a Jean-Baptiste qui vient d'être mis à mort par Hérode. Jésus l'apprend, Jésus le sait. Jésus et ses disciples ont besoin de repos. Ils ont besoin de se retirer, de s'arrêter un peu. Ils prennent une barque, ils prennent le large. Ils vont au large. Et là, il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas de tempête. Ils ont besoin de se reposer. Mais la foule, elle est là et elle voit ce bateau partir. Mais quelle direction ils prennent? Il va dans ce sens. On y va! Et puis la nouvelle, pourquoi Jésus part dans cette direction, ça se répand, mais comme une traînée de poudre. Et on accourt de toutes les villes et puis de la région, et tout le monde se retrouve là au bord de l'eau. Et quand la barque de Jésus accoste avec ses disciples, c'est une foule énorme qui les attend. C'est cette foule-là qui sera nourrie par Jésus, les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est cette foule-là qui va attendre Jésus. Cette foule, elle veut voir Jésus. Elle veut entendre ses enseignements. Elle veut voir les guérisons qu'il opère. Elle veut voir les miracles. Et elle profitera même du miracle de la multiplication des pains, notamment. Cette foule qui veut retrouver Jésus partout où il est. Cette foule qui se presse autour de lui, qui se jette sur lui pour le toucher. Cette foule, elle est présente tout le temps dans ces 8 chapitres de Marc, les 8 premiers chapitres de Marc. Cette foule, elle était à la recherche du sensationnel. Mais bien qu'elle vive le sensationnel, bien qu'elle voie les miracles, bien qu'elle voie des guérisons et même des résurrections, bien qu'elle entende des enseignements profonds, cette foule ne vivra pas la relation intime avec Jésus que les disciples ont vécue. Les disciples et la foule, ils sont tous issus du même peuple. Ils sont tous, c'est tous les mêmes personnes, mais avec une attitude tellement différente. La foule, elle voulait voir, elle voulait la guérison. Mais la foule, elle n'allait pas s'engager. On le voit avec l'épisode de l'homme riche qui demande à Jésus ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répond, mais vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Cet homme-là, il a préféré rester dans la foule. Et il y a les disciples, des gens ordinaires, tout autant ordinaires que la foule, qui ont répondu à l'appel de Jésus. Quand Jésus passait au bord du lac et qu'il les a vus, qu'il les a appelés, ils ont tout laissé pour le suivre. Ils ont tout abandonné. Et ils vont vivre l'entraînement intensif seul avec leur maître au milieu du lac, notamment. Leur oui à Jésus, ça va les emmener dans des situations délicates, dans lesquelles leur propre force, leur propre intelligence ne suffiront pas, mais dans lesquelles ils réaliseront davantage et de plus en plus qui est ce Jésus qu'ils suivent. Qui est ce Jésus? Alors où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Est-ce que tu te situes dans cette foule qui court d'un côté du lac à l'autre pour être sûr de rien rater de ce qui va se passer? Cette foule qui doit surtout pas rater le prochain événement, aussi spirituel soit-il, mais qui finalement n'a même pas le temps de vivre les moments intimes, ces moments intimes avec le Seigneur, avec Jésus. Ou qui peut-être n'y pense même pas, n'en ressent pas le besoin, prises qu'elles sont par qu'est-ce qui va se passer. Où est-ce que tu te situes plutôt du côté des disciples? Les disciples de Jésus, dans la barque au milieu du lac, placés face à nos limites. Et qui peuvent recevoir ce entre guillemets, ce reproche de Jésus, mais gens de peu de foi, parce qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de grandir, qu'ils ont besoin de cette foi, qu'ils ont besoin de Jésus. Et qu'ils sont de plus en plus conscients de ce que veut dire, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Juste vivre ces moments intimes, ces moments de présence avec Jésus, ces moments de cœur à cœur avec lui. Alors nous sommes en chemin. Et aussi longtemps que nous vivrons, nous aurons à apprendre. Apprendre à lâcher prise dans un domaine ou l'autre de notre vie. Mais la manière dont ça se fera dépendra beaucoup de notre relation avec Jésus, de ce que nous le connaissons. Parce que plus je connais mon Sauveur, mon Seigneur, plus ma foi va augmenter. Plus je sais qui il est, plus ma foi va augmenter. Et rappelez-vous, plus il y a de foi, moins il y a de place pour la peur. Est-ce que Marianne, tu peux venir au piano, exactement, et puis on arrive à la conclusion. J'ai pensé, en préparant ce message, à ce chant qui dit, on l'a déjà chanté plusieurs fois, on l'a tous déjà chanté, je pense. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Où tu voudras, j'irai. Les disciples l'ont fait. Passons sur l'autre rive. Ils y sont allés. Mais ça n'a pas empêché qu'ils restent bloqués au milieu. Et dans nos réalités de la vie, parfois on est arrêté. On sait où Jésus veut nous emmener. On sait peut-être même dans quel engagement il nous appelle. Et on s'est engagé, on est parti à bout, mais là on est bloqué. On est bloqué. C'est la tempête. On ne sait plus quoi faire. On n'y arrive plus. Et moi j'ai cette conviction que ce matin le Saint-Esprit veut libérer. Veut nous libérer de ces endroits de nos vies où on est paralysé, où on ne peut pas entrer dans notre appel. Peu importe ce qui nous paralyse, la liste que j'ai faite tout à l'heure des peurs, elle n'est pas exhaustive. Tu sais, peut-être, et tu sais exactement ce qui te paralyse. J'aimerais te dire ce matin, relève la tête, regarde à Jésus. Dis-lui que tu as besoin de son intervention. Sa seule présence à tes côtés, sa seule présence. Va changer les choses. Et dans ce qu'on va vivre ensemble ce matin encore, sa présence est là. On partagera la Sainte-Cène tout à l'heure. Sa présence est là. Accueille-le dans ta barque. Peut-être qu'il y aura ces mots à prononcer, silence, tais-toi, à la tempête qui te fait face. Mais peut-être que simplement d'être dans sa présence, la paix va venir.